Je m'attendais à ce qu'il me demandât d'aller chez lui, mais les jours et les semaines passaient sans invitation. Nous nous arrêtions toujours devant la grille surmontée de deux griffons portant l'écusson des Hohenfels, jusqu'à ce qu'il me dît au revoir. Il ouvrait alors la lourde porte pour remonter l'allée bordée d'odorants lauriers roses qui menait au portique et à l'entrée principale. Il frappait légèrement à la massive porte noire qui glissait silencieusement sur ses gonds et Conrad disparaissait comme pour toujours. De temps à autre, j'attendais une minute ou deux, regardant fixement à travers les barreaux de fer, espérant que par miracle la porte s'ouvrirait de nouveau et qu'il reparaîtrait pour me faire signe d'entrer. Mais cela n'arrivait jamais, et la porte était aussi menaçante que les deux griffons, qui, cruels et impitoyables, abaissaient sur moi leurs regards, leurs griffes aiguës et leurs langues délitées, en forme de faucilles, prêtes à m'arracher le cœur. Chaque jour, je subissais la même torture de la séparation et de l'exclusion. Chaque jour, cette demeure qui détenait la clé de notre amitié croissait en importance et en mystère. Mon imagination l'emplissait de trésors, bannières d'ennemis défaits, épées de croisée, armures, lampes ayant jadis brûlé à Ispahan et à Téhéran, brocarts de Samarcande et de Byzance. Mais les barrières qui me séparaient de Conrad semblaient dressées à jamais. Je ne pouvais le comprendre. Il était impossible que lui, si soucieux de ne pas faire de peine, si prévenant, toujours prêt à faire la part de mon impétuosité, de mon agressivité, quand il n'était pas d'accord avec ma Weltanschauung, eût oublié de m'inviter. C'est ainsi que, trop fier pour l'interroger là-dessus, je devenais de plus en plus tourmenté, soupçonneux et obsédé par le désir de pénétrer dans la forteresse des Hohenfels. Un jour, comme je m'en allais, il se retourna de façon inattendue. « Entre donc, tu n'as pas vu ma chambre, » dit-il. Avant qu'il me fût possible de répondre, il poussa la grille de fer. Les deux griffons reculèrent, encore menaçants, mais pour le moment impuissants et battant en vain de leurs ailes de prédateurs. J'étais terrifié, pris ainsi à l'improviste. L'accomplissement de mes rêves se produisait si soudainement que pour un instant j'eus envie de m'enfuir. Comment pourrais-je me tenir devant ses parents avec mes souliers non cirés et un col d'une propreté douteuse? Comment pourrais-je affronter sa mère que j'avais un jour vue de loin, silhouette noire me se détachant sur des magnolias roses? Elle n'avait pas la peau blanche comme celle de ma mère, mais un teint olivâtre, des yeux en amande, et de la main droite elle faisait tourner une ombrelle blanche comme un soleil. Mais je ne pouvais maintenant que le suivre en tremblant. Exactement comme j'avais vu la chose arriver auparavant, et en réalité dans mes rêves, il leva la main droite et frappa doucement à la porte, qui, obéissant à son ordre, s'ouvrit sans bruit pour nous laisser entrer. Pendant un certain temps, nous parûmes nous trouver dans une obscurité complète. Puis mes yeux s'y accoutumant peu à peu, je distinguai un vaste hall d'entrée, dont les murs étaient couverts de trophées de chasse, d'énormes andouillés, la tête d'un bison d'Europe, les défenses blanc-ivoire d'un éléphant, dont un pied monté sur argent, servait de porte-parapluie. Je me débarrassai de mon manteau et laissai mon cartable sur une chaise. Un domestique entra et s'inclina devant Conrad. « Der Kaffi erst servirt, Herr Kraft, » dit-il. Conrad fit un signe de tête et, me montrant le chemin, monta l'escalier de chêne foncé jusqu'au premier étage où j'entrevis des portes closes et des murs aux lambris de chêne ornés de tableaux. Une chasse à l'ours, un combat de cerf, un portrait du feu roi et une vue d'un château qui avait l'air d'un mélange de château Hohenzollern et Neuschwanstein. De là, nous gagnâmes le deuxième étage et longeâmes un couloir où il y avait d'autres peintures. Luther devant Charles Quint, les croisés entrant à Jérusalem, et Barberousse endormit dans la montagne de Kirchhauser avec sa barbe poussant à travers une table de marbre. Par une porte ouverte, j'entrevis une chambre à coucher qui devait être celle d'une femme avec une coiffeuse couverte de petits flacons de parfum et de brosses à monture d'écailles serties d'argent. Il y avait des photographies dans des cadres d'argent, surtout des officiers, et l'une d'elles ressemblait presque à Adolf Hitler, ce qui me stupéfia. Mais je n'avais pas le temps de l'examiner plus avant, et de toute façon j'étais sûre de me tromper. Qu'eût fait une photographie de Hitler dans la chambre d'une Hohenfels? Conrad s'arrêta enfin et nous entrâmes dans sa chambre, assez semblable à la mienne, mais plus grande, et d'où la vue était belle. Elle donnait sur un jardin bien entretenu, avec une fontaine, un petit temple dorique et la statue d'une déesse recouverte de lichen jaune. Mais Conrad ne me laissa pas le loisir de contempler le paysage. Il se précipita vers le placard et, avec un empressement qui me montrait à quel point il avait attendu cette occasion, ses yeux brillant dans l'attente de mon envie et de mon émerveillement, il déploya ses trésors. De leur couche droite, il tira ses pièces grecques, un Pégase de Corinthe, un Minotaure de Knossos, des pièces de Lampsaque, d'Agrigente, de Ségeste et de Célinonte. Mais ce n'était pas tout. D'autres trésors suivirent, plus précieux qu'aucun des miens. Une déesse de Géla en Sicile, un petit flacon de Chypre, de la couleur et de la forme d'une orange, orné de dessins géométriques, un tanagra qui représentait une jeune fille vêtue d'un chiton et coiffée d'un chapeau de paille, une coupe de verre syrienne, irisée comme une opale et prismatique comme une pierre de lune, un vase romain d'une laiteuse couleur de jade vert pâle et une statuette d'Hercule en bronze. Il était touchant de voir sa joie à pouvoir me montrer sa collection et observer mon étonnement et mon admiration. Le temps passa avec une incroyable rapidité et quand 2 heures plus tard je le quittais, non seulement ne regrettais-je pas de n'avoir pas vu ses parents, mais il ne me vint même pas à l'idée qu'ils eussent pu être absents.